je vais demander à, je ne sais pas lequel des deux, Benoît Bourguin ou Jean Delatte, de venir, qui travaillent dans le SAMSA du Gard et qui vont parler de ce que j'évoquais tout à l'heure, certaines situations de rupture après un certain temps à domicile.
Merci. Je voulais d'abord remercier les organisateurs et l'association Alice de m'avoir invité. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, d'autant que une partie de ce que je vais vous présenter a déjà été dite sous une autre forme. Et c'est plutôt un travail de remise en forme et de conceptualisation de choses qui sont manifestement bien connues. Donc, on peut commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un parcours de soins? Ça, on le sait, donc il y a les soins de premier recours, de second recours, l'hospitalisation, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, etc. Le parcours de santé, c'est un peu différent puisque c'est plutôt une notion dynamique, c'est de bon enchaînement avec le bon timing d'un ensemble de compétences qui sont liées directement, le plus souvent, mais pas toujours, aux soins, avec de l'acte technique, de la biologie, du médicament, etc. Et puis, on a au-delà le parcours de vie qui déborde largement avec une composante à la fois éducationnelle, une composante culturelle, familiale, professionnelle, environnementale. Ça peut se représenter globalement par ce petit schéma où on passe du plus simple ou du plus petit, qui reste quand même le cœur, au plus compliqué. Toujours dans les définitions, la rupture. Alors, les ruptures, vous allez voir, on va passer vite, c'est l'ensemble des définitions du mot rupture qu'on trouve dans le dictionnaire Larousse. Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, les unes sont assez générales, les autres sont des acceptions du terme dans des domaines bien particuliers, que ce soit militaire, mécanique ou médical. Probablement la meilleure définition pour ce qui nous intéresse, c'est celle de Hénion qu'il avait donnée au CNSA en 2012, c'est le non-accès aux bons soins ou à la bonne prise en charge. Vous avez vu qu'on peut remplacer 15 lignes par deux phrases. Et je vous ai mis, pour essayer de vous faire sourire, un petit exemple de rupture dans un sens un peu plus habituel. On peut essayer de regarder aussi ce que sont les périodes charnières, qui sont des périodes de transition, qui peuvent menacer l'équilibre, quelquefois malheureusement qui le rompent, que cet équilibre soit au départ stable ou non. Malheureusement, on sait qu'elles sont souvent inévitables, en particulier en fonction de la chronologie, puisque les structures et les besoins qui vont y répondre quand on passe de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, puis au statut de personne âgée, malheureusement, c'est inévitable. Il faut donc tirer la première conclusion de ne pas chercher à éviter ce qui est inévitable. En revanche, il faut repérer et il faut surtout accompagner, l'idée étant une période charnière ne doit pas ou peut ne pas mener systématiquement à un épisode de rupture. Je ne reviendrai pas sur la loi du 11 février 2005, dite loi handicap, qui définit le handicap. Vous connaissez la définition mieux que moi. Elle pose quand même quelques principes. Le premier, et on en a parlé largement au cours du forum, c'est le but de cette loi, c'est de permettre le maintien dans un cadre de vie ordinaire, un cadre de travail ou un cadre scolaire ou de formation ordinaire. C'est également l'accompagnement et le soutien des familles et des proches. Là encore, la table ronde en a largement débattu. Et puis, il y a un petit mot qui n'est pas écrit extrêmement souvent, si on le compte dans cette loi, mais qui avait été souligné par Mme Monchamp, qui à l'époque était la secrétaire d'État auprès du ministre de la Solidarité et de la cohésion sociale, qui est le mot participation, mais ça correspond en particulier aux points 1 et 2 que les intervenants précédents avaient largement souligné et à juste titre. Alors, quand on regarde la vie au domicile, on peut la conceptualiser de différentes façons. Là, j'ai choisi je vais vous dire pourquoi, parce qu'on était sur un thème un peu cinématographique, comme le montrait le titre de la présentation, et ça permettait de mettre au milieu le patient dans un cercle rouge. Et pour les amateurs d'Alain Delon, le cercle rouge, c'est parlant. On a quand même plusieurs niveaux de proximité. On a clairement un entourage familial, et qui est le plus souvent extrêmement aidant. On a des auxiliaires de vie qui sont, par définition, aidantes et très présentes. On a des amis un peu plus loin. On va avoir une équipe que j'ai appelée l'équipe soignante, c'est-à-dire les assistantes, les infirmières, les kinés, les médecins, les orthophonistes, les ergos, les aides-soignantes, etc. On pourrait rajouter les psychologues, on pourrait rajouter tout ce qu'on veut. Et puis on a un cercle encore plus large dans lequel on va retrouver le revendeur, c'est-à-dire les aides techniques. Et on avait vu ce matin au cours d'une présentation que l'aide technique peut être extrêmement simple ou de petite taille comme un contacteur et peut être une très grosse machinerie comme les connexions machine-cerveau. Et puis l'hôpital, bien sûr, les services médico-sociaux dont font partie les SAMSA qui viennent de nous parler. Également l'architecture, puisqu'on a des contraintes architecturales à la fois dans les domiciles, mais également dans la ville. Et puis on a, même si on n'a pas forcément le temps de s'étendre dessus, un certain nombre de contraintes sociétales, mais qui sont parfois assez fortes. Et donc, si on multiplie les cercles, à un moment donné, on a besoin d'un jongleur, donc je pense qu'il y a probablement systématiquement besoin d'une coordination. Et cette approche comme ça, qui est assez simple, elle permet de classifier de façon assez évidente les points de fragilité, c'est-à-dire les anomalies ou les variations ou les évolutions du premier cercle, c'est-à-dire du patient. Et j'attire votre attention que, bien sûr, l'aggravation est un facteur qui s'impose de lui-même, mais l'amélioration est aussi parfois, pour ne pas dire souvent, un facteur de fragilité. Les altérations du deuxième cercle, ça nous vieillit un peu. C'est l'épuisement de la famille ou des aidants, des auxiliaires de vie sociale, le désinvestissement des amis. Le troisième cercle peut également, lui aussi, être altéré, soit par épuisement, soit par changement d'intervenant. Et puis le quatrième cercle, qui paraît pourtant assez loin, mais il a un rôle et il peut être un facteur de fragilité, notamment les carences de structures médico-sociales, les changements d'hôpital, de spécialistes hospitaliers, de revendeurs, les changements de domicile, et puis bien sûr les anomalies de la coordination. Si ça veut avancer, c'est le bonheur. L'évolution du patient, donc, on peut en dire quelques mots. L'aggravation, elle peut être aiguë, ça, on s'en doute bien, vous le vivez malheureusement assez régulièrement. Elle peut également être progressive. C'est là que Jean-Marie Barbier, qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, qui était l'ancien président de l'APF, avait trouvé l'assez joli mot ou la belle formule de vulnérabilité latente. Et lui, il tenait que les petits incidents, quand ils se répètent, que les petites modifications du comportement sont des facteurs qui doivent être absolument repérés et pris en compte, parce que c'est probablement le départ d'un déséquilibre et qu'il est beaucoup plus facile d'intervenir et de le corriger à ce moment-là que si l'on attend. L'épuisement de la famille ou de l'aidant, là encore, ça incite un peu à la réflexion. D'abord parce que pour aider, il faut que l'aide ait un sens. Et donc la perte du sens du rôle de l'aidant ou de la famille est souvent dramatique. L'inquiétude que peut avoir la famille ou l'aidant, c'est la question que posait Madame tout à l'heure, c'est effectivement extrêmement, extrêmement gênant. La méconnaissance des services disponibles, là encore, sont un facteur aggravant. La perte du sentiment d'auto-efficacité, tout le monde l'a vécu, valide ou en situation de handicap, c'est particulièrement désagréable et ça fragilise. Le manque d'information ou de formation sur l'évolution, bien sûr. Le stress coping, les défauts dans le stress coping, c'est-à-dire la capacité que chacun a, plus ou moins, mais qui peut se travailler, de gérer son stress et son angoisse, ça contribue à fragiliser, quand il est mauvais, la situation. Et puis simplement les conflits, bien sûr, les difficultés entre cercles, c'est déjà de la coordination. Et puis la vie elle-même, c'est-à-dire la fatigue, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, la maladie, le vieillissement, la séparation, ce sont des éléments qui sont susceptibles de provoquer ou au moins d'être un facteur de risque de rupture. On peut rajouter, je l'ai peut-être mis ici un peu pour provoquer, ce que j'ai appelé la prise de rôle du soignant, c'est-à-dire lorsque la famille ou l'aidant, on est dans ce chapitre-là, commence à essayer de faire l'infirmière, quelle qu'en soit la cause, et j'insiste, je ne dis pas que la cause est toujours mauvaise. C'est un constat, c'est une analyse. Soit par obligation, parce que le troisième cercle est en train de dysfonctionner, soit par choix qui peut être conscient, qui quelquefois ne l'est pas. Et c'est un déplacement de rôle, mais ce déplacement de rôle est susceptible de venir perturber les équilibres.
5 minutes.
Nickel. Autre facteur de risque, c'est l'épuisement des AVS. Alors, j'avais retrouvé, c'était Saïd Jaffri qui avait une assez belle définition. Il disait, le rôle de l'AVS, c'est quelque part la mise à disposition d'un corps fonctionnel, avec une grande difficulté qui est de trouver la juste distance. Et il avait deux risques, qui étaient le risque d'intrusion dans l'intimité, bien sûr, et puis, en miroir, le risque d'être robotisé. Et il est indispensable que l'AVS soit en mesure de garder sa conscience. Elle a des missions qui sont quelquefois contradictoires, puisqu'on lui demande évidemment de favoriser l'autonomisation, mais on lui demande en même temps de favoriser le bien-être et surtout de favoriser la sécurité. Et on a tous compris, quand on a eu des enfants au moins petits, que si on ne veut pas qu'ils tombent, c'est quand même pas mal s'ils ne marchent pas. Ceci dit, à un moment donné, il va bien falloir les laisser marcher. Elles ont aussi un rôle particulier de personnes ressources, et c'est ce que le rapport Jacob de 2013 avait souligné. D'abord parce qu'elles ont les clés d'un certain nombre de domaines, en particulier les gestes adaptés, en particulier la communication, on en a assez largement débattu. Elles ont une bonne capacité avec le temps à interpréter les comportements, et puis elles ont aussi une fonction mémoire, c'est un peu hippocampique, elles ont la mémoire du parcours de soins et quelquefois même du parcours de vie. Elles présentent naturellement le même risque d'épuisement que la famille, il n'y a pas de raison. Et elles présentent aussi un autre risque qui est l'inverse du risque de la famille, c'est-à-dire de déborder de leur rôle, cette fois-ci soit vers le moins, soit vers le plus. Et puis, petite nuance, dans la définition des missions, selon les structures auxquelles elles appartiennent, rien n'est absolument harmonisé, rien n'est homogène, c'est quelquefois compliqué. Et puis, on parlait tout à l'heure de la formation, peut-être on aura le temps d'y revenir. La formation est une chose, c'est une formation théorique. La formation à un individu particulier avec des besoins propres, des envies propres, une personnalité propre et un mode de communication propre, eh bien, ça s'apprend, c'est difficile, ça prend du temps et malheureusement, on va se tromper, on le sait. Et c'est Tidker qui, en 2012, avait précisé, être compagnon, c'est en particulier partager quelque chose. Et il y a donc manifestement une notion de partage qui pourrait peut-être être réanalysée et relue un jour prochain. Au niveau du troisième cercle, on se heurte à quoi ? On se heurte à une prise en charge qui est manifestement inhabituelle, grande difficulté technique, grande fréquence des interventions, longueur des soins, durée de la prise en charge, c'est-à-dire durée dans le temps, connaissance ou méconnaissance des perspectives d'évolution, nécessité surtout d'une prise en charge qui est une sorte d'équipe, mais qui est une équipe informelle, d'où le rôle de la coordination. Et puis, quelquefois, il faut bien le dire, soit l'omniprésence, soit les exigences de la famille qui vont mettre en difficulté des intervenants, alors le plus souvent des intervenants qui n'ont pas été absolument parfaits, mais qui est capable d'être absolument parfait tous les jours pendant des années, je ne sais pas. Et on sait que ces obstacles se représenteront à chaque changement. Les altérations du quatrième cercle, c'est réellement la perte de connaissance par les structures de recours. Et tout se perd. L'histoire du patient, l'histoire de la famille, l'histoire de l'équipe de soins, ça rend systématiquement à chaque changement nécessaire un réapprentissage et un retissage de liens. Et bien sûr, la coordination peut elle aussi être défaillante, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus une équipe n'est plus contenue, eh bien, elle va se désagréger, on va rencontrer des conflits et le résultat sera systématiquement la diminution de la prise en charge. Alors comment on peut essayer de prévenir ces multiples obstacles ? Eh bien, c'est une question d'affect, j'ai essayé de ne pas faire de faute d'orthographe. Il faut premièrement anticiper. Alors j'ai mis exprès, j'insiste un peu parce que je suis un fan de rugby, Graham Henry qui est un grand philosophe, mais que vous trouverez beaucoup plus présent dans l'équipe parce que c'était l'ancien entraîneur des All Blacks que dans le supplément littéraire du Figaro. Mais il avait quand même eu cette très bonne idée et qui est adaptée à la vie de tout le monde, c'est « we should predict the unpredictable ». Il faut prévoir même l'imprévisible. Et dans cette lignée-là, il faut non pas être réactif, mais il faut réellement tenter d'être proactif. Il faut donc observer tout, c'est-à-dire le patient, observer la famille, observer le système, observer l'environnement. Il faut être en mesure de communiquer, à mon sens, de deux façons, sur un mode de routine, mais également sur un mode de l'urgence. Parce que quelquefois, la communication ne va pas attendre le 24 heures. Et puis, il faut quand même savoir un petit peu de choses, c'est le minimum. Il faut former. Alors, former quoi ? C'est d'une simplicité absolue. Il faut former tout le monde, il faut le former tout le temps, il faut recommencer en permanence. On sait que les Nord-Américains ont développé déjà depuis quelques années un certain nombre de programmes pour les aidants. Il semblerait que ça diminue le nombre de réhospitalisations ou de réadmissions en urgence. Je parle des hospitalisations non programmées. Ça doit concerner y compris les professionnels de santé. Et tout à l'heure, une dame l'avait fait remarquer. Le professionnel de santé, quelquefois malheureusement, ne connaît pas ou ne connaît pas bien la pathologie. À quoi il faut former les gens ? Eh bien, il faut les former, vous avez vu globalement, à tout, c'est simple. Il faut les former aux particuliers, c'est-à-dire aux patients qu'on est là pour aider, au matériel dont ils disposent. Il faut les former au général, c'est-à-dire à la pathologie, évolution, complication. Il faut les former également aux ressources, en particulier aux ressources existantes et également les ressources qu'on pourrait appeler sociétales, c'est-à-dire les droits.
Jean, il faut...
On va conclure. Il faut donc entourer les aidants, c'est les écouter, les rassurer sur leurs capacités, c'est augmenter l'estime de soi. Il faut essayer de proposer chaque fois qu'on peut des solutions de repos. Et là encore, il faut former. Il faut naturellement coordonner. On arrive au C, il n'y a plus que le T. C'est réellement harmoniser les activités dans un souci d'efficacité. Ça, c'est la définition de Larousse. On pourrait presque dire l'information, c'est pour prévoir l'avenir. C'était le titre d'un livre de Jacques Attali. Peut-on prévoir l'avenir ? Probablement, oui, on le peut. Et ce n'est pas de la divination. Avec des outils de communication, avec une volonté de communication, avec un cadre réglementaire qui doit faciliter la communication, et puis aussi, quelque part, avec une capacité d'analyse des informations. Et enfin, il faut naturellement soutenir, coordonner, c'est également soutenir. Ça, c'était pour amuser. Et puis le T, c'est tenir bon. Alors, vous avez mis en exergue une petite phrase de Jean d'Ormesson que vous lirez, mais clairement, la durée est un facteur majeur d'épuisement. Il faut donc s'organiser pour avoir des moments de répit et de soutien pour les permanents. Probablement un turnover pour ce que j'ai appelé les intermittents du spectacle, c'est-à-dire les gens des deuxièmes et des troisièmes et du troisième cercle. Mais il faut essayer de l'anticiper. Il faut créer des routines parce que la routine, ça minimise l'effort cognitif et c'est beaucoup plus facile de fonctionner dans un système routinier que dans un système qui doit s'adapter en permanence. Et puis il faut des bilans d'étape régulièrement pour apprécier, encourager les réussites, identifier les difficultés, proposer des solutions, et puis peut-être, pourquoi pas, trouver du plaisir à ce que l'on fait, ce qui n'est jamais inutile. Je vous remercie de votre attention. C'est un petit tableau de Greuze qu'on trouve à Montpellier pour ceux qui veulent venir visiter notre jolie cité.
Des questions ?
Qu'est-ce que vous entendez exactement par bilan d'étape et par qui est-il fait ? Comment est-il fait ?
Ah, alors, le bilan d'étape, c'est la capacité à régulièrement essayer de réunir l'ensemble des intervenants des différents cercles, parce que pour faire un bilan, il faut avoir un retour d'information. Et réellement, dans le SAMSA auquel je participe, très, très modestement, on essaie de faire au moins annuellement ce type de bilan, d'abord parce que ça correspond à la réglementation, et on essaie chaque fois que c'est possible, et surtout chaque fois que c'est nécessaire, de le faire presque à la demande. Parce que l'expérience a montré que de laisser filer une situation qui va bien, puis qui va pas mal, puis qui va à peu près, c'est la meilleure façon d'arriver à une situation qui ne va pas du tout, et qui va être très compliquée à redresser. Alors, c'est compliqué pour nous, tout le monde s'en fiche, et avec raison. C'est surtout extrêmement dommageable pour le patient et extrêmement dommageable pour la famille. L'enjeu, il est là. Il n'est pas du tout de faciliter le travail des gens qui coordonnent naturellement.
Moi, j'ai une question sur la coordination. Qui coordonne tout ça, tous les acteurs ?
C'est une excellente question. Nous, on a choisi... chaque fois que le SAMSA intervient, d'avoir un SAMSA qui s'oriente vers la coordination en disant voilà, au moins on a un coordonnateur. Si on n'a pas ça, L'expérience montre que le plus souvent, c'est la famille qui coordonne. C'est-à-dire qu'on rajoute une charge qui est extrêmement lourde à la famille, et donc on va majorer cet effet d'épuisement, et on va finir par avoir une situation de déséquilibre. Donc je pense sincèrement qu'il faut que la coordination échappe à la famille. En revanche, il faut qu'elle soit très intimement et très largement associée, parce que coordonner, c'est avoir l'info, et quel est le meilleur interlocuteur pour avoir l'info que le patient ou sa famille ? Mais lui, se décharger, si l'on peut dire, qu'une société se décharge sur le patient ou l'entourage complètement pour ce travail de coordination, à titre personnel, c'est mon analyse à moi, elle est contestable, je pense que ça n'est pas une bonne solution. Mais c'est une solution de facilité au départ.
Est-ce que parmi les personnes lits ou familles qui sont à domicile, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de relation avec leur SAMSA, le SAMSA du Gard, c'est-à-dire soit qui découvrent, soit qui n'ont jamais été aidés par un SAMSA? Bon, donc a priori, c'est pas mal.
Le Gard est un territoire parfaitement couvert par des professionnels de haut niveau, je le rappelle.
Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces dispositions constituent un handicap pour les soins parce que c'est très très cher et très peu de gens peuvent se payer tous les soins que vous avez demandés? Ensuite, donc, moi je pense que je reviens tout à l'heure à mon histoire de charte. Il faut absolument prévoir une charte qui définit tous les problèmes qui peuvent se poser et que ça soit général pour tout le monde.
Probablement. Alors, sur la première question, je pense que la réponse est non. Il n'y a réellement aucune participation financière dans ce que j'ai décrit en termes de coordination, puisque, en principe, et quand tout se passe bien, l'intervention des SAMSA, qu'ils coordonnent ou qu'ils produisent des soins d'ailleurs, n'est pas financée par le patient. Les aides techniques, les aides humaines sont censées être financées par le biais de la PCH. Donc, logiquement, le problème économique ne se pose pas. Vous avez remarqué, j'ai bien dit, logiquement, j'ai entendu tout à l'heure que 1 000 euros le contacteur, qui était très compliqué à faire financer par le biais de la PCH, il pouvait se poser. Mais je ne crois pas que ce soit le frein. Le vrai frein, c'est effectivement le caractère assez inhomogène, presque brownien, des organisations, c'est-à-dire que chacun fonctionne avec son expérience, avec son réseau, avec ses relations qui sont souvent des relations interpersonnelles et qui ne sont pas des relations extrêmement structurées. Donc oui, à la deuxième question, l'idée d'avoir une charte et de formaliser un petit peu les modes de fonctionnement, ça me paraît tout à fait nécessaire, vous avez raison.
Donc merci Jean. Benoît de la même équipe va prendre le relais. Donc s'il y a d'autres questions sur le ou les SAMSA, il pourra bien sûr prendre la suite pour les réponses.